Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le pape François saluait son prédécesseur et l'a félicité pour son anniversaire. Benoît XVI fêtait ce mardi ses 86 ans à Castel Gandolfo, entouré de ses proches et dans la discrétion. Nous entendrons le cardinal Schönborn, l'archevêque de Vienne. L'assemblée plénière de printemps des évêques français s'est ouverte à Lourdes, l'occasion de parler des grands défis auxquels l'Église doit faire face. Dans son discours d'ouverture, le cardinal 23 est revenu sur le mariage pour tous, faisant part de son inquiétude sur une situation qui pourrait déboucher sur la violence. Dans ce magazine, le pape a envoyé un télégramme après les attentats de Boston et puis Israël fêtait ce mardi ses 65 ans d'existence. Nous entendrons le père David Nehaus, vicaire patriarcal pour les catholiques de langue hébraïque. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le pape François a célébré la messe ce mardi matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican, une messe à l'intention du pape émérite Benoît XVI. C'est en effet ce mardi que Benoît XVI fêtait ses 86 ans. Nous offrons la messe à son intention, a souligné le pape, afin que le Seigneur soit avec lui, le conforte et lui apporte beaucoup de soutien, a affirmé le pape. François, qui a téléphoné dans la matinée à son prédécesseur pour lui adresser tous ses vœux à l'occasion de cet anniversaire. Retiré depuis le 28 février dans la résidence pontificale de Castel Gandolfo, non loin de Rome, le pape émérite a célébré ses 86 ans entouré de ses proches, parmi lesquels son frère, Mgr Georg Ratzinger. Un anniversaire célébré en toute discrétion, fidèle à l'image que le pape émérite a voulu laisser. Avant de renoncer à sa charge, Benoît XVI avait clairement expliqué qu'il mènerait une vie de prière et de recueillement. La dernière apparition publique de Benoît XVI remonte au 23 mars dernier. C'était lors de sa rencontre avec le pape François à Castel Gandolfo. L'image des deux papes se saluant et priant côte à côte avait fait le tour du monde. En cette journée d'anniversaire, nous avons choisi de donner la parole à l'un des proches du pape allemand, le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne et président de la conférence épiscopale autrichienne. C'est un témoignage recueilli par Hélène Destombes.
Mon premier souhait est celui d'un immense merci à Benoît XVI, à tout ce qu'il a fait pour l'Église depuis son jeune âge. C'est un immense héritage, c'est une moisson abondante qu'il lègue à l'Église, et je ne suis pas prophète, mais je suis convaincu que l'héritage théologique qu'il nous a donné, qu'il nous laisse, fera partie des très grands maîtres de l'histoire de l'Église. Je n'hésite pas à le mettre à côté d'un saint Augustin, d'un saint Bonaventure et d'un bienheureux John Henry Newman. Alors mon souhait aujourd'hui pour son 86e anniversaire, c'est qu'il sente la gratitude du peuple de Dieu pour ce qu'il a été et ce qu'il est à travers son ministère, à travers surtout sa personne tant aimée et tant vénérée.
En annonçant sa renonciation, Benoît XVI a déclaré continuer à être présent par la prière. Peut-on considérer qu'il a en quelque sorte un rôle de veilleur, qu'il veille sur l'Église avec ce regard bienveillant et cette prière?
Je suis convaincu que sa prière a été d'une importance capitale pour nous les cardinaux qui ont préparé le conclave pendant les 8 jours des congrégations générales et surtout pendant le conclave qui a conduit à l'élection du pape François. Je suis convaincu et je crois que beaucoup d'entre nous en ont eu une conscience très vive que sa prière nous accompagnait, nous soutenait et qu'elle continuera à soutenir son successeur et avec lui toute l'Église. C'est une présence forte, secrète, mais efficace.
La dernière apparition publique de Benoît XVI remonte au 23 mars dernier. On se souviendra de cette rencontre entre un pape émérite, Benoît XVI, et le nouveau pape, le pape François. Que vous ont inspiré ces images inédites qui ont fait le tour du monde?
Je garde une de ces images devant moi, avec moi, précieusement, cette accolade des deux. Cette rencontre si belle, si simple et fraternelle dans la prière et dans l'amitié, pour moi, ça reste, je dirais, comme une icône de ce qu'est être disciple du Christ, être dans l'amitié du Christ. Et voilà ce que je souhaite aussi à son successeur, de pouvoir profiter de cette proximité priante et pourquoi pas aussi cette sagesse qui est à son côté.
On sent beaucoup cette proximité entre le pape François et Benoît XVI. Le nouveau pape n'a cessé depuis le début de son pontificat, depuis un mois, d'appeler à prier pour Benoît XVI. Il est allé le rencontrer, il lui a téléphoné à plusieurs reprises. Il y a une grande proximité.
Tout à fait. Et en cela, il nous invite à faire autant par notre prière, par notre gratitude, par notre souvenir et notre présence autant que nous pouvons à Benoît XVI.
Dans son homélie mardi matin, le pape François a également réfléchi sur la relation entre l'Esprit-Saint et le Concile Vatican II, comme l'a déjà fait à de nombreuses reprises son prédécesseur. Le Concile a été une belle œuvre de l'Esprit-Saint, a-t-il assuré, mais 50 ans après, avons-nous fait tout ce que nous a dit l'Esprit-Saint dans le Concile, dans cette continuité de la croissance de l'Église qu'a été le Concile? Et le pape de répondre, non, le pape a ainsi dénoncé ceux qui veulent retourner en arrière. Cela s'appelle être borné, a-t-il dit, cela s'appelle vouloir apprivoiser l'Esprit-Saint. Cela s'appelle devenir insensé et lent de cœur, a-t-il souligné. Les États-Unis sont encore sous le choc des attentats à la bombe qui ont frappé lundi soir la ville de Boston, sur la côte est. Deux bombes ont explosé à proximité de la ligne d'arrivée du marathon qui était organisée dans la ville, faisant 3 morts et au moins 170 blessés. Ce mardi soir, aucune piste n'était encore privilégiée entre un attentat terroriste ou une attaque venant de l'intérieur. Le FBI poursuivait ses investigations. Ces attaques ont provoqué une très vive émotion dans le monde. Le pape a envoyé un télégramme ce mardi matin. Le pape François se dit profondément blessé par la nouvelle. « Le pape François souhaite que je vous transmette sa sympathie et sa proximité en prière », écrit le cardinal Burton, le secrétaire d'État du Saint-Siège, signataire de ce message à destination de l'archevêque de Boston, le cardinal O'Malley. Après cette tragédie insensée, le pape François invoque la paix de Dieu pour les morts, sa consolation pour les personnes en souffrance et sa force pour ceux qui sont engagés dans la poursuite des travaux de secours et d'intervention. En ce moment de deuil, poursuit le télégramme, le Saint-Père prie pour que tous les habitants de Boston soient unis dans la volonté de ne pas se laisser surmonter par le mal, mais de combattre le mal par le bien, travaillant ensemble pour construire une société toujours plus juste, libre et sûre pour les générations à venir. De son côté, le cardinal O'Malley a lui appelé à prier pour toutes les victimes, l'archidiocèse de Boston qui a fait part de son profond chagrin après les actes de violence insensés perpétrés au marathon. L'assemblée plénière de printemps des évêques de France s'est ouverte ce mardi matin à Lourdes. Les évêques sont réunis jusqu'à jeudi pour réfléchir aux nombreux défis de l'Église. Et ces défis ne manquent pas, comme l'a rappelé le cardinal André 23, l'archevêque de Paris et président de la conférence des évêques de France. Dans un discours dense qui fait la lecture des événements qui ont marqué la France et la vie de l'Église ces derniers mois, il a tenu un langage ferme face aux mutations culturelles actuelles, en particulier autour du dossier explosif du mariage pour tous. Le compte-rendu de Xavier Sartre.
Le cardinal 23 s'arrête d'abord sur le nouveau pontificat du pape François qui a suivi la renonciation de Benoît XVI. Deux événements qui ont constitué une épreuve de vitalité pour notre Église, souligne l'archevêque de Paris. En nous invitant à sortir aux périphéries, le pape François nous invite à rejoindre tous ceux que la vie malmène, explique-t-il. Puis le discours du cardinal 23 se fait plus sombre et plus inquiet quand il s'agit d'aborder les défis de l'Église de France dans une société en pleine mutation. Depuis plusieurs mois, le climat de tension autour du mariage pour tous est une véritable source de préoccupation, et le président de la conférence des évêques ne manque pas de le souligner. Plus que le manque de débat et le mépris ressenti par une partie de la population, le cardinal dénonce l'invasion organisée et militante de la théorie du genre, particulièrement dans le secteur éducatif, et plus simplement la tentation de refuser toute différence entre les sexes. Si l'on fait disparaître les moyens d'identification de la différence dans les relations sociales, pour poursuit Mgr 23, on entraîne une frustration de l'expression personnelle qui finit par déboucher tout au tard sur la violence. Le cardinal invite aussi à dépasser les revendications catégorielles, tout en déplorant que la société française ait perdu sa capacité d'intégration et surtout sa capacité d'homogénéiser des différences dans un projet commun. Le président de la conférence des évêques explique ainsi que croire au Christ est une forme de dissidence, un choix délibéré qui marque une différence. « Nous ne devons plus attendre des lois civiles qu'elles défendent notre vision de l'homme », assène-t-il, avant d'appeler les chrétiens à la cohérence dans leur témoignage de la foi et une conversion permanente qui évite de s'enfermer dans un combat politique ou idéologique. Pour ce dernier discours, comme président de la conférence des évêques, Mgr 23 a parlé comme il l'a toujours fait, sans langue de bois, en nommant les problèmes, tout en appelant à dépassionner les débats pour mieux vivre en chrétien dans la société.
Et lors de cette assemblée plénière, plusieurs votes auront lieu pour renouveler certaines instances de la conférence, à commencer par la présidence et le conseil permanent. Les prises de fonction auront lieu le 1er juillet prochain. Les évêques vont élire un nouveau président, le cardinal 23 ayant accompli deux mandats, n'est plus rééligible. Également au centre de cette assemblée, l'enseignement catholique, alors que les évêques de France sont en train de réécrire un statut pour cet enseignement. Et restons en France où les opposants au mariage pour tous restent très mobilisés. Alors que beaucoup prévoyaient l'essoufflement du mouvement, les opposants au projet de loi regroupés au sein du collectif La Manif pour tous ont à nouveau battu le pavé le week-end dernier à Paris et dans plusieurs villes de province, dans un climat de fortes tensions. Après le vote du texte vendredi dernier au Sénat et avant le retour du projet de loi à l'Assemblée nationale le 17 avril, le ton se fait de plus en plus virulent, une détermination qui semble s'être durcie après la décision du gouvernement d'accélérer le calendrier pour que la loi soit votée plus rapidement. De retour à l'Assemblée nationale ce mercredi, donc en seconde lecture, contre fin mai comme initialement prévu, le texte pourrait être adopté dès le mardi 23 avril. Comment expliquer cette radicalisation de certains dans le débat? Le point de vue de Gérard Leclerc, journaliste, éditorialiste de l'hebdomadaire France Catholique.
Cela s'explique déjà par l'attitude du gouvernement, qui est une attitude de fermeture totale par rapport aux manifestants. Alors, on comprend que les opposants au mariage dit pour tous soient singulièrement mécontents et multiplient les manifestations parfois intempestives. Et là-dessus, je dois quand même préciser que certaines de ces manifestations n'ont pas reçu l'aval de la manif pour tous. Il y a incontestablement parfois des débordements qui peuvent être dangereux et contre-productifs. Mais indépendamment de cela, on est incontestablement dans une sorte de bras de fer. Qu'est-ce qui va résulter de tout cela? Je n'en sais rien, mais je crains un clash.
Ce débat est en quelque sorte le débat de trop. Les catholiques, depuis trop longtemps, se sentent tenus à l'écart, non écoutés, dans une société qui a poussé à l'extrême la laïcité.
Oui, enfin, laïcité, moi je parlerai plutôt de laïcisme, et un laïcisme qui veut étouffer la voix profonde, la voix du cœur, et peut-être les catholiques, cette fois-ci, ont fait le serment de ne plus se taire. Et j'ajoute que ce message n'est pas exclusivement à l'usage des catholiques. D'ailleurs, il trouve la complicité du monde juif, du monde musulman, de gens qui sont agnostiques, mais qui comprennent tout à fait le bien fondé de ce combat-là.
Sur les réseaux sociaux, le ton de certains catholiques se fait de plus en plus virulent. On a même pu voir des intentions de déclaration de guerre, alors que finalement, de tels propos sont totalement contraires au principe même de la foi. Il est important de le rappeler, comme l'ont fait les évêques de France.
Absolument. Mais il faut bien voir que c'est tout à fait minoritaire, que ce n'est pas le ton général de la contestation. Le gros des troupes des différentes manifestations qui ont eu lieu étaient tout à fait pacifiques et je pense qu'elles préfèrent de loin l'attitude à la Gandhi qu'une attitude violente.
C'est le manque de cohésion sociale qui, selon vous, est à l'origine de cette radicalisation que l'on est en train d'observer au sein de la société française aujourd'hui ?
Oui, enfin, je pense qu'il y a effectivement le délitement du lien social sur fond d'individualisme consumériste. Ce qui est en cause là, c'est la structure fondatrice de la société, la famille, dont la symbolique éclate complètement. Cette attaque frontale contre l'institution familiale, c'est le signe même d'un nihilisme profond. mais comment dirais-je, j'affirmerais quand même en définitive l'optimisme transcendantal, parce que c'est un contre-nihilisme qui s'affirme aujourd'hui. C'est un mouvement dans le sens de l'être. Clavel parlait d'une révolution selon l'être. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer. C'est un printemps d'espoir, c'est un printemps d'espérance. Et j'espère qu'en ce sens-là, il va gagner.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. Un mardi particulier pour l'État d'Israël. L'État hébreu célébrait en effet le Yom Ha'atzmaout, la fête de l'indépendance qui commémore le 65e anniversaire de sa création. 65 ans d'existence marqués surtout par un état de guerre permanent avec ses voisins arabes et pour lequel on n'entrevoit encore hélas aucune solution viable. Un état de fait que déplore le père David Nehaus, vicaire patriarcal pour les catholiques de langue hébraïque, qui perçoit cependant un souhait profond de la paix de la part des peuples israéliens et palestiniens. Dans ce contexte, la contribution de l'Église doit être prophétique, en ce sens qu'elle doit aider à développer un discours de respect de l'autre. « Nous sommes appelés à être un peuple d'espoir », affirme le père Nehaus, interrogé par Manuela Afidji.
Notre souci est la transmission de la foi. Vraiment, notre souci premier est que cette petite communauté presque invisible, mais qui aujourd'hui compte beaucoup, beaucoup de gens qui vivent au sein de la société israélienne, hébraïque, hébraïophone, juive, que cette population peut transmettre à ses enfants notre foi catholique dans la simplicité, dans la joie, dans une expérience profonde de qui est Jésus-Christ. Et cela exige un grand travail d'inculturation, de trouver les moyens de transmettre la foi dans une langue qui n'est pas traditionnellement une langue chrétienne, et de vivre tout cela en communion profonde avec nos frères et nos sœurs majeures, qui sont les Arabes chrétiens de la Terre Sainte, le peuple palestinien. Cela sont des grands défis, parce que ce n'est pas tellement simple de mettre tout cela ensemble, mais nous embarquons dans cette aventure avec beaucoup de joie toujours, et aujourd'hui, notre projet, notre grand projet, et d'essayer d'établir dans la ville de Tel Aviv un centre pastoral exactement pour ces chrétiens qui vivent au sein de la société israélienne hébraïophone juive. Tel Aviv qui a été établi comme la première ville juive moderne, aujourd'hui a une grande population de catholiques asiatiques et africains.
L'État d'Israël fête ses 65 ans d'existence, ce n'est presque rien à l'échelle de l'histoire, mais 65 ans marqués surtout par un état de guerre permanent avec ses voisins. Quels espoirs peut-on nourrir aujourd'hui pour la paix?
C'est triste qu'après 65 ans, nous n'avons pas encore trouvé les moyens de vivre en paix, en justice avec notre voisin le plus important, le peuple palestinien, et comme résultat, et avec le monde autour. Mais je pense qu'il y a un souhait profond des deux peuples de trouver ces moyens. Notre problème principal, c'est nos chefs qui ne sont pas encore des hommes de dialogue. Je pense que ce que l'Église peut contribuer, pape Jean-Paul II, pape Paul VI en venant ici, le premier après pape Jean-Paul II, pape Benoît XVI, ils ont fait leur contribution prophétique et cela est dans le discours, comment on parle de l'autre. Et ici, c'est le travail vraiment de l'Église de développer un discours de respect pour tous. Nous devons vivre déjà dans un pas encore. Le pas encore sera le temps quand les Juifs et les Arabes réalisent qu'ensemble, ils peuvent construire quelque chose de merveilleux ici au Proche-Orient. Nous sommes appelés à être un peuple d'espoir. Et pour cela, je regarde toujours le peuple en essayant d'écouter ceux qui vraiment veulent la paix. Et je suis convaincu que c'est la majorité des deux côtés.
Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.